En entrant dans le zendo, enfin un peu avant déjà, Claudia, qui savait que j'allais donner le talk, m'a dit « relax » ou « chill » ou un truc comme ça.
Cool.
En rentrant ensuite dans le zendo, Amy m'a dit « are you ready ?» Est-ce que t'es prête ? Et j'ai dit on va voir. C'est toujours aussi dur pour moi de me retrouver ici. Et juste là, parce qu'il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Plein de punchlines de comment commencer, d'être drôle, pas drôle, je sais pas, enfin plein de choses. Mais je sais pas préparer. Donc j'ai noté des trucs qui me sont venus, mais je suis incapable de préparer quoi que ce soit. Mais en rentrant, là, à l'instant, là, je pensais à ce qu'on s'est dit ces derniers jours et on parlait de tuer. Il y a ces histoires, tous ces Corans où on parle de tuer un chat, de tuer, couper un doigt, tout ça est très violent. Et à part celui de Sochin hier, qui nous amène autrement à cette même réalisation. Mais ce qui m'est venu, c'est que pour pouvoir m'asseoir ici, la seule façon d'y arriver pour moi, et pour nous tous, je pense, c'est de me tuer, de mourir. C'est une exécution d'être ici. C'est de se mettre à nu complètement. Parce que ce que je... Et pourtant, je suis là, je suis en vie. Je suis Lisa, avec tous ces doutes, ces imperfections, tout ce qui lui dit que non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas être là à vous parler. En plus, il y a une amie que je connais de la fac, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, et puis à Noël, je passais dans sa région, je lui dis « Ah, je suis là ». Est-ce qu'on se voit ? Et puis elle est là. Des choses folles comme ça. Donc plein de choses qui me disent « mais c'est impossible. Je n'étudie pas les textes, je ne connais pas les noms, je suis une catastrophe en termes d'apprentissage. » Et donc j'ai tout ça qui me traverse l'esprit. Et en même temps, je pense que c'est pas ça que, montre le zen, c'est pas dans les sutras qu'on trouve la réponse. Il y a une réponse à trouver, mais c'est dans notre pratique et notre expérience. Et donc, pour pouvoir être ici, il faut tout lâcher. Toutes les idées que j'ai de moi, toutes les limites, et de m'ouvrir. Et c'est ce que je fais, et c'est ce qu'on fait tous depuis qu'on est arrivé, c'est on lâche, on ouvre, on se perd, on revient, on lâche, on ouvre, etc., etc., jusqu'à... Donc là, on est mercredi. Sochin parlait de mardi, c'est le jour où on est agité, les choses commencent un peu à s'apaiser, on a mal partout. Moi, mercredi, maintenant, je sais à peu près que c'est le jour de l'enseignement. Sauf que il y a deux jours, Amy m'a dit oui, Sochin va parler. Je lui ai dit super, je vais pas avoir à parler moi, c'est Sochin qui va parler. non. Alors, est-ce que toi, tu peux le faire mardi? Mardi, mais je serai jamais prête mardi. Et puis j'ai dit après, drop it, lâche, c'est pas grave, fais-le, de toute façon tu ne seras jamais prête, donc fais-le, mardi, mercredi, peu importe en fait. Et puis Sochin a décidé de le faire hier, donc c'est mercredi. Et en même temps, moi, j'ai besoin de ce temps. Il y a des... Faire un dermatoc en pleine semaine de travail, pour l'instant, j'ai pas... je ne sais pas faire. Donc, j'ai besoin de ce temps de pause. Parce que on passe tous par ça. On arrive, tout est agité. Et puis, c'est l'image qu'on utilise tout le temps de cette eau boueuse. Et qui petit à petit se pose. Et de cette eau boueuse, on le chante dans l'orioki pour dire à quel point cet orioki contient tout. Puissions-nous, pourtant je le chante, hein, demeurer pur comme un. Dans l'eau boueuse, puissions-nous demeurer pur, pur comme un lotus. Dans notre imperfection, on est parfait. Comment on est parfait dans notre imperfection. Et donc c'est ça la mort dont on parle. Et elle est radicale et elle est parce qu'on meurt quand même. Et c'est tellement dur d'y aller. Et en même temps, après, c'est tellement facile dans... pas d'en sortir, mais d'être après avoir vécu ce letting go, ce lâcher prise de tout. Parce que c'est ce dont on parle, c'est ce chemin de libération. C'est qu'on arrête d'être attaché à tout ce qui nous, toutes les idées qui nous empêchent ou qui nous aident aussi. Hein, on en a besoin pour. On vit dans ce monde. Du relatif. Donc, on a besoin d'avoir nos cadres, nos pensées, nos règles, etc. Mais comment nous, soit chacun individuellement, on trouve notre ce qu'on appelle notre Buddha nature, notre nature du Bouddha, notre on l'appelle comme on veut, ce moment où c'est ici, maintenant, rien d'autre. Et ça c'est notre liberté. Et Soshin hier parlait de qu'on est dans un monde aujourd'hui où on veut se faire plaisir, on a besoin de d'être oui, de toutes les choses qui nous ennuient, on met de côté. Mais à un moment, pour arriver à cette mort, il y a ce edge, cette cliff. Je crois que l'an dernier, j'avais parlé de ligne de crête. Il y a cet endroit où il y a un précipice. Et on n'ose pas y aller à ce précipice parce qu'il fait peur. Il y a quoi? Il n'y a rien. Il y a quoi derrière Si je suis pas Lisa, je suis quoi? Et le truc, le paradoxe magnifique de ce qu'on fait ici, c'est de s'approcher de plus en plus de ce bord, de ce précipice, jusqu'à oser aller regarder. Et se rendre compte en fait que dans ce vide, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout ce que je suis, tout ce que vous êtes. Et c'est de s'ouvrir à tout ça. C'est est-ce que je peux être Soshin, Mélanie, Laurent, Marjolaine, Sylvaine, Christian, Gissa, Holly, je connais ton nom.
Moi ?
Oui, ne me le dis pas, ça va venir. Thiago, Adrien, Alain. voilà. Amy, Claudia, Joël et Edith. Que je peux être vous, pour moi, et tout ça. Je lisais un truc, là, je sais plus, c'était le Bodhidharma who swallows the world. Je sais pas si c'était le Bodhidharma, enfin, un truc comme ça, qui avale le monde. Comment on fait pour avaler le monde? Parce que c'est grand, c'est vaste, et puis il y a beaucoup de choses dedans, on n'a pas trop envie de l'avaler quand même, parce que ça ne fait pas très envie. Et pourtant, quand on est là, assis, c'est ce qu'on fait. On englobe tout, petit à petit. L'eau se pose, notre esprit se pose, les pensées sont là, mais... elle passe. Et on s'ouvre. On s'ouvre jusqu'à pouvoir manger ce monde et à être ce monde. Et donc, enfin voilà, et pour être ici, du coup, c'est lâcher tout ça. Toutes mes idées que je me fais de d'être capable, pas capable, je me dis oui, mais je suis pas ci, je suis pas ça, je j'aime pas parler, ce qui est vrai, mais en même temps, il y a rien à dire et il y a tout à dire, et c'est partager cette, ce chemin, en fait. Et on a tous expérimenté, tous eu cette expérience, sinon on ne serait pas là, de cette ouverture, ce moment d'union absolue. Amy parlait de cette skieuse, le non-thinking, qui... il n'y a plus rien à... il n'y a plus d'enjeu, donc on se donne complètement. On a tous ça. La difficulté derrière, c'est comment... c'est ce qu'on en fait. Et comment on cultive cette... comment on cultive ça, cette unité, ce moment présent qu'on sent avec grande force jour après jour dans les retraites. On sort d'ici, là j'étais assise là tout à l'heure et je me dis ouais, j'ai un halo autour de moi, j'ai un soleil là, ça me chauffe et pff, ça y est, j'ai atteint l'éveil, il y a cette lumière qui sort de moi, c'est magnifique. Je sais pas, mais j'aimerais bien y croire, mais voilà. Et donc c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça, il y a plusieurs choses, non pardon, avant, il y a d'autres choses qui m'étaient venues aussi par rapport à, parce que qu'est-ce qui fait aussi que à un moment, on est prêt à se laisser mourir et à faire ce saut dans l'inconnu. On parlait de confiance, trust. Et à un moment, en permanence, il y a cette question de la confiance. Et la confiance, en quoi elle est, cette confiance? C'est sûr, en quoi on, pour moi, c'est... la première fois qu'Amy Roshi m'a demandé de faire un talk, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, la confiance, je me souviens, c'était, j'avais parlé de ça parce que c'était, pour moi, c'était la seule façon de dire oui à ce qu'elle me demandait. Il fallait que j'aie confiance. J'avais confiance en mon enseignante. Et mais En fait, l'enseignante, elle tient un miroir. Et elle te renvoie ce que tu es. C'est pour ça qu'elle nous donne nos noms de dharma. Elle nous renvoie ce qu'on est. Notre nature profonde. Et cette confiance, c'est la confiance dans l'instant. La confiance dans qui je suis. En sachant que je ne suis rien, et donc cette confiance permet de lâcher, parce que on a confiance que derrière ce précipice, eh bien il y a ça. Il y a nous tous. Il y a libérer et encore. C'est un travail permanent, ce lâcher prise. Hein. C'est pas un coup et hop. Mais c'est la confiance que ça va. Je peux faire ce pas. Je peux faire ce pas et ça va aller. Et que Lisa, elle va disparaître, mais en fait, Awakened Heart est là. C'est mon nom. Le Genpo Roshi, le grand-père de Dharma de Roshi, lui a dit, je crois, quand tu allais pour ta cérémonie de transmission, Amy won't be coming back. Amy ne reviendra pas. Et c'est ça dont il s'agit. Il y a une phrase, une saying que je dis souvent et qui est très important, c'est parce que quand je l'ai, ça devait être en cours, je sais plus, quand je l'ai passé, c'était pour moi. Il y a des courants comme ça, on en a beaucoup. Qui à un moment, il y en a certains, on les retient plus que d'autres. Évidemment, je ne m'en souviens pas exactement, mais en gros, c'est un processus. Il y a un moment, les montagnes sont des montagnes et les rivières sont des rivières. Puis sur le chemin, les montagnes ne sont plus des montagnes et les rivières ne sont plus des rivières. Jusqu'au moment où les montagnes redeviennent des montagnes et les rivières redeviennent des rivières, ou sont des rivières. Qu'est-ce qui a changé entre la montagne du début et la montagne de... Une montagne est une montagne et une montagne est une montagne. Quelle expérience on a de cette montagne ? Et ça m'a fait penser aussi à ce qu'on parlait de soumission aussi. Mince, j'ai perdu ce qui me voulait. Ça me reviendra peut-être ou pas, mais en tout cas, ah oui, ce qui est en fait, on nous demandera jamais de faire quoi que ce soit dans cette, en tout cas. Dans l'expérience que j'ai de notre enseignement et dans notre pratique et dans cette voie, dans cette lignée et avec cette enseignante, donc je peux parler que de ça, on nous a jamais demandé quoi que ce soit, on m'a jamais demandé quoi que ce soit. Roshi ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Ni de faire Jokai, ni de rien. Et donc, c'est le chemin que toi tu fais, que moi j'ai dû faire dans cette pratique. Il y a énormément de choses auxquelles j'ai résisté. Au début, je résistais au chant, ensuite je résistais à la prosternation, ensuite j'ai résisté pendant des années, j'ai résisté à faire... Ça m'a pris 10 ans avant de faire un rakuzu, alors que je pratiquais depuis 10 ans déjà, et je voyais pas l'intérêt. On en revient à cette question, jusqu'où on pousse, jusqu'où on est prêt à aller, en fait. Et jusqu'où on lâche d'histoires on se raconte pour se préserver. Et combien il faut lâcher en permanence jusqu'au jour où, bah non, au lieu de dire non, on dit oui. C'est con, c'est simple. Bah voilà, tu le fais. Et tu le fais, il ne se passe rien, en fait. Ta vie n'est pas en danger. Si tu veux partir, demain, je pars. Si un jour, j'en ai marre, ça veut dire que je n'ai pas très réfléchi, mais j'enlève ce truc et je dis non, ça suffit, quoi. C'est plus ma voix, je ne sais rien. Pourquoi pas on est nombreux là à avoir suivi un cours sur les healthy boundaries. Je ne sais pas comment on traduit en français des limites saines. C'est dans notre pratique comment on se préserve parce qu'il y a des abus. Comment tu reconnais ces abus? Et dès que ça vient de quelque chose où c'est l'ego qui parle, voilà, il faut... faire attention. Mais le... Et aussi, on parlait de croyance. On nous demande de croire en rien, en fait. On nous demande de croire en rien. Et c'est ça aussi la force de cette pratique, c'est qu'il n'y a que ton expérience qui compte. Donc tu trustes qu'il y a quelque chose, mais si tu n'en fais pas l'expérience, il faut que tu enfin c'est ça qui porte cette lignée aussi, c'est que depuis le Bouddha, pourquoi il y a eu tellement de Bouddhas, et pourquoi on est tous là? Parce qu'on est, on porte tous ça, on est tous ça. On a tous la nature du Bouddha jusqu'au... Mais il faut en faire l'expérience soi-même. On pourra nous raconter des milliers de choses. Et si, je le disais, si on est tous là, c'est parce qu'on le sait, en fait. On le sait. Somewhere deep, quelque part, on le sait, ça. On le voit pas toujours, mais rarement, mais... Donc c'est avoir cette expérience de... Avoir l'expérience, faire l'expérience soi-même. Et pour ça, il faut de la croyance et il faut de la confiance. Et je commençais, je disais, ouais, et donc, enfin, vendredi, samedi, on va sortir du zendo et retrouver nos vies. Et là, c'est difficile. Là, c'est le moment où... tout ce qu'on a cultivé pendant cette semaine de présence, d'ouverture, le cœur qui prend des dimensions, qui n'a plus de dimensions, l'état d'apaisement qu'on a aussi, comment on l'amène dans nos vies? Alors moi j'ai un truc qui me vient là, je circule à vélo dans Paris et vous pouvez imaginer que c'est pas de tout repos, il y a des voitures, des piétons, des gens partout, et le niveau de stress est élevé. Et donc, je me dis, je me vois là en train de me faire klaxonner ou bousculer, ou ça m'est déjà arrivé de me faire aussi menacer de mort, une autre mort. Et ben, comment je réagis à ça? Est-ce que j'arrive à garder cette même ouverture et compassion, en fait, parce que c'est de la compassion, en fait, d'abord envers moi-même et envers les autres. Et c'est pour ça qu'on étudiait dans ces dernières semaines-là. On a un groupe d'études le samedi et quelqu'un avait amené une question de... entre différentes pratiques du bouddhisme, certains parlent d'éveil soudain ou instantané, je sais pas comment on dit en français, et graduel. Donc on a eu plusieurs textes sur le sujet. Et donc voilà. Enfin, tout ça, y a les deux en même temps, en fait. Il y a le moment où il y a cet éveil soudain, et en même temps, comme tout est impermanent, il passe en permanence. Et donc, en permanence, il faut le... Eh ben, on y retourne, on y retourne, on y retourne, on refait, on refait, on s'assoit, on retourne. Enfin, c'est sans fin, c'est sans fin. Cette pratique est sans fin, et c'est ça aussi qui la rend passionnante. Enfin, passionnante, c'est même pas le terme, mais voilà. Et c'est tellement incroyable d'avoir Holly et Laurent, parce qu'il y a les questions, c'est génial, ces questions de... Je crois qu'Amy mentionnait le beginner's mind, des... frais, c'est... Nous, on est là, ça fait 15 ans. Je sais tout. Oui, je sais plier mon oreo-ki. À peu près. Mais à part ça... Et oui, pourquoi on se prosterne? Pourquoi... À quelle distance... Ah, j'adorais ça. À quelle distance doit être le zabutan entre l'hôtel et l'enseignante? Ah, mais il y en a des tonnes, et c'est ça qui c'est la beauté du truc, quoi. C'est oh, arrête, fais, stop. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de lâcher, parce que ça nous met dans cette zone d'inconfort, d'incertitude, on perd ses repères, mais c'est quoi, c'est qui, c'est... Donc, est-ce qu'on arrive à emmener cette... ça, dans notre quotidien? C'est un vaste sujet. Vachement de bruit, les radiateurs, là. C'est fou, hein? Ah, c'est moi. Et je dis ça, mais beaucoup d'entre vous savent que j'ai des acouphènes. Ça, c'est un truc aussi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à lâcher. Acouphènes. Tinnitus. Tinnitus. Tinnitus.
Oh.
Acouphène. Parce que l'assise, être zazen, c'est le silence. C'est ça, c'est la boue qui se pose au fond du verre et ouf, silence. Eh ben moi, c'est pas silencieux. Rarement, très 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 rarement, ça l'est plus. Et ça a été une incroyable pratique. Est-ce que je peux être avec le bruit? Comment je suis le bruit? Et d'être simplement, c'est là, si c'est ça, c'est. On en revient à accueillir le parent, l'enfant, tout ce qui passe. Comment accueillir, 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 accueillir et puis être avec ça. Et parfois, on n'a pas envie, hein. Parfois, j'aimerais que ce soit silencieux. Mais bon, ça l'est pas. Je vais sortir mon anti-sèche. Il y a peut-être des choses que j'ai écrites qui pourraient m'inspirer. On a écrit plein de choses. Mais j'avais écrit un truc, parce que c'est pas vrai, j'avais quand même pris des notes de ce qui me passait par la tête. Et j'avais aussi, parce que je regarde cet arbre, c'est mon maître pendant toutes ces assises. Il est absolument incroyable. Et je me souviens que je crois que la première fois, j'avais. Le coin qui m'était venu en le regardant, c'était comment aller droit sur une route avec 99 virages. Et là, je disais, mais il y a un autre coin, je me souviens d'un coin avec un arbre. Et c'est dans la même collection que ce Ordinary Mind dont parlait Soshin hier. Alors, celui-là, c'est un bien violent aussi. Et c'est dans le Momonkan. Et c'est donc un maître, Master Kyogan, toujours cette même époque du 9e siècle, pardon, et qui dit, et qui raconte, pardon, c'est comme un homme qui est dans un arbre et qui est accroché par la bouche. Ses mains ne peuvent pas attraper la branche. Et ses pieds ne peuvent pas toucher l'arbre. Un autre homme arrive sous l'arbre et lui demande ce que veut dire Bodhidharma venant de l'Ouest. Si l'homme accroché par la bouche ne répond pas, il ne peut pas répondre. À la personne qui l'interroge, au besoin de la personne qui l'interroge. S'il répond, il perd sa vie. Que doit-il répondre? Alors voilà, vous vous imaginez en Dokusan et vous avez ça là. C'est violent quand même parce que accroché à un arbre par la bouche, quand même, c'est dur. Et il perd sa vie. On en revient toujours à la même chose de perdre sa vie. Et ça, on pourrait l'appliquer dans notre vie, en fait. À ce moment-là. Bon, après, il y a plein de questions. Qu'est-ce que ça veut dire que Bodhidharma coming from qui vient de l'Ouest? En gros, c'est quoi le zen? C'est quoi la vie? C'est quoi? Comment on répond à ça? Et en fait, il n'y a qu'une réponse. Et en permanence, il n'y a qu'une seule réponse. C'est quoi la appropriate, on dit en anglais, la réponse juste à ce moment-là? C'est quoi? Et. Aucun d'entre nous ne donnera la même réponse, parce que y a pas de, c'est pas écrit dans les textes la réponse, donc à chacun d'entre nous de la trouver la réponse à ça. Et donc c'est la même chose dans tout ce qu'on fait tout le temps. C'est quoi la réponse appropriée? Et Amy cite souvent une phrase de Dogen qui dit. There's no enlightened people, only appropriate enlightened actions. Il n'y a pas de personnes éveillées, il n'y a que des actions éveillées. Donc c'est comment on porte à nouveau ça, cette... ce no self, ce vide, et qu'on le remplit de toute cette diversité de nous et du monde, et qu'on trouve dans ça l'action juste. Alors après, on a plein de préceptes et de guidelines, de lignes de conduite pour nous aider dans ce chemin. Mais c'est là aussi, c'est cette réponse et ces préceptes. Comment, parce qu'il y a plusieurs façons de les lire, et il y a l'absolu qui va être... Il n'y a pas tuer, tout est un, donc on ne peut pas tuer, c'est absolu, il n'y a rien, c'est le néant. Puis il y a la façon littérale de le lire qui va dire on ne tue rien. Et puis il y a et ça, c'est la discussion qu'on a dans nos retraites. Est-ce qu'on tue l'abeille ou pas? Est-ce qu'on tue le moustique? Puis il y a le... Comment on fait que... C'est le knowing and not knowing. Comment on fait que les deux, à un moment, s'alignent et se retrouvent, et là, on sait. Je vois juste un truc que j'avais noté qui m'a frappé hier et aujourd'hui, tout à l'heure là, pour comme on est plus nombreux là à cette heure-ci, on a changé les merci Laurent fait un super boulot de mettre les afous, les aboutants, voilà, il faut être créatif. Et hier Thiago était derrière l'hôtel. Et mis le Shila, et puis il y avait l'hôtel au milieu, et je voyais cette ligne d'enseignante, le Bouddha, Thiago, et cette ligne qui nous tient, cette ligne de cet enseignement, cette ligne de one, being one with, d'être un, et qui se retrouve là sur cette... C'était fort, c'était beau. Je pense que tu l'as ressenti. Ouais. Et ben voilà. C'est ça. Merci. Voilà.
Je voudrais partager quelque chose dans la continuité de ton talk. Merci. Je vais raconter. Ce matin, pendant l'assise, je ne savais plus du tout pourquoi j'étais là. Sophie avait parlé de taking aim, de viser quelque chose. Mais je visais quoi et comment et pourquoi et qu'est-ce que je fais là? Bon, bref, j'étais perdue. En plus, j'avais mal partout. Vraiment mal. Et quand l'assise était finie, mais j'avais pitié de moi-même. Je me suis dit, oulala, mais c'est dur. Pauvre de moi, je vieillis, ça peut être que pire après. C'était complètement... Et puis, je suis allée faire des courses. Et tu parlais de comment transposer ce qu'on fait ici dans le quotidien. Faire les courses ici, c'est mon quotidien. Donc, parce que j'habite ici et je... Voilà. Et je pensais aussi à Shoshen qui avait parlé du repas orioki ou le repas à table et notre ordinaire et la situation. Donc, je pars faire mes courses. J'arrive à la pharmacie et je vois une deux chevaux, vieille deux chevaux, garée sur la place des handicapés. Toujours une place réservée handicapée. Et je pense, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il n'y a pas de le macaron handicapé, c'est la place du handicapé. Ça, c'est moi, je pense ces choses-là. Et je me dis, merde, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Bon, je prends conscience de ce que je pense. Je rentre dans la pharmacie, je vois un monsieur très âgé assis sur le banc avec sa canne. Et il y a une dame qui lui propose de passer devant. Il dit, non, non, vous êtes arrivé avant moi. Allez-y. Merci, monsieur. Oui, il dit, ça s'appelle la galanterie. Et je vois que quand il est son tour, tout le monde lui dit bonjour, tout le monde a le sourire, et lui, il fait des petites blagues et tout ça. Et part avec sa canne. Péniblement, il avait du mal aussi à trouver l'argent dans sa poche. Tout était lent. Mais visiblement, ça ne le gênait pas. C'était aussi manger lentement ou pas. Lui, il était lent. Mais il était lent, quoi. Sans que ça le gêne. Donc, voilà. Je prends mes trucs à la pharmacie. Je vais au supermarché. Je revois le même monsieur à la caisse. Il parle avec une maman qui était avec trois petites filles, 5 ans, 6 ans. Et il dit sur sa canne comme ça, « Je suis un vieux papy. » Et il avait les yeux, mais qui brillaient. Il était... Et les petites filles, elles disaient bonjour monsieur. Et en passant, elles disaient attention au vieux papy, disaient les filles. Et puis il était, je ne sais pas, il dégageait vraiment quelque chose. On est sortis du supermarché en même temps. Je le salue et je lui dis monsieur, vous êtes peut-être un vieux papy, mais vous faites sourire tout le monde quand vous êtes là. Comment vous savez ça ? Et bien, c'est parce que je l'ai vu. Et ça fait du bien de voir ça. Ah, il me dit, vous savez, j'ai toujours été optimiste. Et c'est pas à 94 ans que ça va changer. Bonne semaine, madame. j'étais tellement émue, moi qui étais dans plein de pitié de moi-même, et c'est dur de vieillir, et comment ça va être, et tout ça. Et ce monsieur, avec sa canne, et qui dégageait un amour de la vie. Et je me suis dit, c'est rencontrer le Bouddha. C'était vraiment, je suis encore émue quand j'en parle, mais c'était tellement... Ouais, c'était une confrontation en même temps, un miroir. De dire, mais tu vois, il a sûrement mal aussi ce monsieur, mais ça ne l'empêche pas d'être gentil, de parler à tout le monde, de dégager ce côté optimiste, l'amour de la vie. Voilà.
Il a deux chevaux,
c'était la sienne. C'est ça, la question. Donc, devant la porte du supermarché.
Donc, le Bouddha a une deux chevaux. Je l'ai rencontré aussi il y a deux jours. Je pense que c'est le même.
Achetez-vous une deux chevaux. C'est la leçon, c'est achetez-vous une deux chevaux.
La leçon, c'est ouvrez-vous. Parce que je pense que j'ai été aussi capable de sentir ça et de le voir comme ça, parce que la pratique crée cette ouverture. Et en arrivant ici, j'étais dehors, il y avait les oiseaux, il y avait les abeilles, et je me suis dit, mais c'est la vie, quoi, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est beau, la vie. Et c'est avec cette vie-là, ce vieux monsieur, avec la mort... C'est tout ça, c'est un grand ensemble et c'est le mystère en fait. C'est voilà. Merci.
Parlant de vitesse, moi manger rapidement ou pas, ou faire quoi que ce soit. Je racontais à... Quand on faisait l'Orioki, la formation, au début avec Laurent et Oli, je disais que j'avais été... J'étais une fois rendre visite à une amie au Japon, dont le mari est moine. Il s'occupe d'un temple au Japon. Et on est... Et le père du mari était un maître zen assez réputé. C'est lui qui a fait les premières retraites au Portugal il y a longtemps, dans les années 70-80, je crois. Et on est allé dans le temple de ce maître. Et donc cette amie est venue avec ses deux enfants, petits. Et on débarque donc dans un temple très traditionnel zen. Hein. Et le maître était mort depuis quelques temps. Et donc il y avait le nouveau abbot qui était là. Et qui a accueilli, qui avait accepté d'ailleurs que les enfants viennent. C'est pas très courant. Et on a passé pas très longtemps, 24 heures. Mais il y a deux choses qui parlant de vitesse, qui étaient hallucinantes. C'était le repas, déjà, la vitesse à laquelle il mangeait. C'était très drôle parce qu'il y avait le petit gamin qui avait, je sais pas, 6-7 ans. Et quand on servait, donc on fait un peu Orioki à table, mais c'est un peu la même idée. Et lui, il en rajoutait, alors qu'il allait absolument pas, c'est the right amount, il allait pas manger ce qu'il avait dans son assiette. Et puis il courait dans tous les sens. Et c'était ce truc de voir ce... Et en même temps, les moines, eh ben... Ils ont attendu, tout le monde s'est adapté à ce petit garçon qui venait perturber leur repas. Mais ça, c'était tous les gestes étaient millimétrés et allaient à une vitesse. Il n'y a pas de temps à perdre, quoi. Donc, c'était une précision absolue. Et le lendemain matin, je ne sais plus à quel moment on s'était levé, il y avait des exercices. Et donc, c'est des séries de d'étirements, de... Je sais pas, c'est un protocole, ça dure une demi-heure. Et nous, on a une crise cardiaque à faire ça là-bas. Ça va à une telle vitesse que c'était... Mais je suis pas particulièrement en mauvaise forme, je suis pas très sportive, mais enfin, je pense que ça va. Je pouvais pas suivre. Et là, c'est allé tellement vite. Je me dis, mais pourquoi ça va si vite? Et la façon de réciter les sutras aussi, ça va à une vitesse impossible de... Bon, évidemment, je parle pas japonais, mais c'est et on se demande, enfin, si je m'étais accrochée à... Non, c'est pas bien. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Ils vont beaucoup trop vite. Ils mangent trop vite. Ils vont tomber malades. Ou ils vont se faire mal en faisant cette gymnastique à toute berzingue. Si je m'étais accrochée à ça, je me dis, mais c'est nul cette expérience dans ce monastère zen japonais là. Ils savent pas vivre en fait. Ils vont tellement, mais ils prennent pas le temps. Pourquoi ils vont si vite? En fait, ils ont le temps. Ils font rien de la journée. Ils ont le temps de faire leur exercice le matin, de prendre le temps de réciter les sutras. Et ça m'avait vraiment marqué. Et c'est aussi les idées qu'on apporte avec soi quand on va quelque part. On répète la même chose, mais est-ce qu'on arrive à s'ouvrir aussi à ça, au fait que y a différentes façons de ranger sa cuillère, de faire les rituels, de... Et voilà, c'est s'ouvrir. Pardon, je parle.
Vas-y, je parle après. Je sais pas si je vais réussir à exprimer. Je me pose la question de tout ce rapport à la difficulté, au chemin de difficulté, de une forme de lutte contre soi aussi, contre ce qu'on. Et quelque chose me dit depuis assez peu de temps que qu'il y a quelque chose qui pourrait être facile peut-être de lâcher cette idée que c'est difficile, que c'est une lutte et que c'est une bataille ou de dire c'est pas facile de... Bref, c'est quelque chose qui est en ce moment assez fort pour moi, de me dire est-ce qu'à un moment donné aussi, dans aussi l'amour que je porte à cette vie, à cette incarnation, à ce moment, je peux accueillir dans une forme de facilité tout ce que je suis, tout ce qui est, et que si c'est dur, c'est que c'est pas le bon endroit. Si c'est souffrant, c'est que c'est pas le bon endroit. Si ça fait mal, c'est que c'est pas le bon endroit. Il y a quelque chose comme ça qui m'interroge.
Tu pourras aussi te dire, et si tu accueilles cette souffrance, qu'est-ce qui se passe ?
J'ai fait t'accueilles. De me dire, il faut accueillir, accepter la souffrance, une sorte de condition. Et du coup, de la déterminer comme souffrance, ça veut dire que quand même, on est pas tout à fait OK avec ça, tu vois. C'est même presque la définition de la souffrance qui serait à regarder. Si tu as mal quelque part, tu vas te soigner. Tu vois.
Accueillir, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. C'est aussi voir cette souffrance. C'est comme on dit souvent, c'est... je ne sais plus. Il y a la souffrance et la douleur. On souffre tous, mais on n'est pas obligé d'avoir mal.
Non, c'est le contraire.
Non, c'est le contraire. On a tous...
Oui, c'est ça.
C'est le contraire, oui.
On a tous mal.
On n'est pas obligé de souffrir.
On est obligé de souffrir.
Et c'est... Et parfois, effectivement, c'est de se dire, bah non, ça fait trop mal et c'est pas le bon endroit. Mais tu peux accueillir ça, accueillir ce qui se passe pour toi à ce moment-là, sans que ça te fasse mal, sans que ce soit une souffrance, pardon. C'est trouver cet endroit, et peut-être que c'est ça qui va t'emmener ensuite à prendre une décision, quelle qu'elle soit, mais qui sera juste pour toi à ce moment-là. Parce qu'on a tous, je pense que... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce qui m'a amenée ici, c'était la souffrance. C'était de... Et la souffrance, c'est un grand mot, hein, parce qu'on peut mettre plein de choses derrière. Il y a plein de degrés de souffrance. Mais simplement de souffrance vis-à-vis de moi-même, de ne pas être... L'idée que j'avais de moi, de ne pas être en... Enfin, voilà, ça, il y a des décès, il y a des choses, des histoires personnelles. On en a plein, des histoires, des souffrances qui, à un moment, nous disent « Je veux lâcher tout ça. »
Peut-être que, aussi, comme tu disais tout à l'heure, ce qui nous amène ici, c'est la joie. Aussi. C'est l'expérience, même infime, de la joie.
C'est
de la pure présence. Et qu'une fois qu'on a des étincelles qui font que du coup, et c'est pour ça que j'ai envie, en tout cas pour moi-même, de changer de, plutôt que de focusser sur sortir de la souffrance, me dire je nourris la joie, je nourris cette présence, je nourris.
Mais plus tu cultives ça, plus c'est facile de l'amener. C'est ce qu'on disait, c'est parce que quand tu t'assois une semaine, ça t'arrive à lâcher et à trouver cet endroit de plénitude quelque part, de joie. Et comment on arrive à garder ça vivant ?
Comme ce monsieur.
Comme ce monsieur.
Comme le Bouddha, là, de chez
moi. C'est ça. Malgré les douleurs, malgré les difficultés, on sait que c'est parce que le moment il ne peut être que ce qu'il est et il est parfait tel qu'il est, ce qui ne veut pas dire que on doit tout accepter et ne rien faire. C'est tout l'art de cette pratique aussi. C'est parfois ça nous amène à faire des choix difficiles. Voilà. Et ça, mais ça, ça t'appartient. Ça appartient à chacun d'entre nous. Chacun a sa réponse. Et voilà, plus on s'assoit, plus ça devient clair.
Moi, je veux revenir sur la notion de vitesse, parce que vous vraiment, décidément, cette histoire de vitesse d'Oriyuki. Alors moi, il faut savoir que quand même, l'Oriyuki, je trouve que c'est la vitesse parfaite. Je trouve que c'est... Mais vraiment, c'est pour ça que je trouve que c'est très intime, ces histoires de rythme et de... Ah, oui. Parce que moi, je ça va pas trop vite pour moi, en fait. C'est bien ça, l'histoire. Enfin, je sais, c'est bien. Et après, je voulais juste parce que j'ai expérimenté plusieurs choses là, ces derniers temps et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est déjà en yoga, parce qu'il se trouve que je suis amenée à faire un yoga un peu différent. Et du coup, la première fois où je suis rentrée dans le cours, je me suis dit, ils sont tous fous. Parce qu'en fait, chaque respiration, c'était un mouvement. Ils font... Enfin, c'est le Hatha yoga, je sais pas. Donc la salutation, c'est... Bon, et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est n'importe quoi, je vais me faire mal. Et en fait, ben, maintenant, au bout de 2 semaines, je fais comme les autres, et en fait, ça ne pose plus aucun problème. Cette idée, en fait, il y a aussi la répétition. C'est intéressant que la répétition, répéter quelque chose tout le temps, la même, en fait, au début, c'est difficile, et en fait, ça rend la chose facile. Et en fait, la vitesse qui peut paraître extrêmement rapide... En fait, elle devient totalement... Maintenant, j'ai intégré la chose et c'est très facile pour mon corps. Le fait de l'avoir répété tous les matins pendant 15 jours, déjà, c'était autre chose. Et ça m'emmène aussi en musique. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté en musique aussi. C'est qu'en musique, si j'écoute une chanson, enfin, si j'écoute un morceau et que je dois le jouer à ce tempo-là, mais c'est extrêmement rapide, je ne pourrais jamais faire ça. Et en fait, je me souviens très bien de mon prof me disant... Pas grave, tu le prends tu dois le jouer à 150, prends-le à 35, tu vas voir, on s'en fout. Et en fait, à 35, et le lendemain, tu le prends à 36, et puis à 40, et puis à 50. Et en fait, c'est très facile de le jouer à 100. Au bout de 3 semaines, tu le joues à 150, mais ce qui te paraissait complètement impossible. Et c'est intéressant, cette idée de vitesse, parce que c'est vraiment... je sais pas, c'est aussi la répétition des choses qui en... Donc ça paraît très rapide et puis finalement avec le temps en répétant toujours les mêmes gestes, moi je pense que c'est moins de japonais en tout cas. Mmh. La récitation des sutras, ils font ça tous les matins, les exercices ils font souvent dans les temples comme ça, ils ont tous un protocole matins. Et c'est tous les matins depuis 35 ans, donc en fait ils ont, c'est juste qu'au début, enfin voilà, au bout de 35 ans du même exercice tous les matins, tu vas très vite en fait, mais ça a beaucoup de sens parce que ton corps il est habitué et que tu répètes ça. Et ça m'emmène encore à une dernière chose, c'est cette idée de cette chanteuse, là, cette séquence que j'avais filmée une fois où c'était un texte très rapide qu'il fallait dire. Et du coup, ce que disait la professeure, c'était au plus ça va vite, au plus tu dois prendre ton temps pour dire le texte. C'est-à-dire que pour pouvoir dire un texte très rapidement, il faut le penser. Par exemple, si le rythme c'est ça, alors dans sa tête, il faut le penser comme ça. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. C'est parce que tu le penses comme ça que du coup un jour tu vas pouvoir être comme ça. Bon, bien sûr, je ne dis pas du tout ça. Bien sûr, pour l'Oriyuki, c'est complètement autre chose. Après, c'est des histoires de digestion, de mastication. C'est surtout pas pour convaincre quoi que ce soit, mais c'est plus pour ces histoires d'exercice où il y a cette idée de ça paraît très rapide. Et en fait, c'est aussi une histoire d'habitude et de répétition et de...
Mais c'est notre pratique, en t'entendant, ce qui me vient, c'est ce dont je parlais tout à l'heure des résistances. Quand je résistais à la prosternation, résistais au jukai, résistais au sutra, et avec le temps, petit à petit, tu t'intègres. Et on en revient toujours, tu t'ouvres, et tu te laisses pénétrer. Donc toi, on parle de vitesse petit à petit, au fur et à mesure, tu arrives à faire de plus en plus. Et dans cette pratique, c'est ça aussi, d'une certaine façon. Tu te laisses pénétrer par la pratique, comme je cite beaucoup mon enseignante, désolée, mais c'est quand l'exemple que tu donnes de marcher dans un champ à la levée du jour où le pantalon, tu rentres dans le champ, les pantalons sont secs et puis petit à petit ils se mouillent, tu t'en es même pas rendu compte. Tellement c'est progressif et c'est. Et ça t'envahit, en fait. Ça t'envahit.
Mais aussi le « just do it mm-hmm. ». Moi, ce « just do it », il est magique, quoi. Ben just oui. « shut up and
do it ». Voilà, prosterne-toi, mange, fais jukai et arrête de te poser des questions, quoi.
Alors vu que c'est moi qui ai déclenché cette chose, je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Il y a des nouveaux termes. Donc la sangha, c'est ce groupe-ci, c'est cette famille. Et je ne fais pas partie de la famille. La famille m'ouvre ses portes et je découvre une famille qui a des pratiques et qui me fait pratiquer. Et suite à ce premier échange, donc en fait, moi j'ai compris que la famille était large et avait du cœur et pouvait accueillir même quelqu'un qui mangeait encore moins vite que moi. Et pourtant, il y a eu la question, alors tu manges avec nous ? Mais bah, oui, j'ai la place pour manger avec vous. Et J'ai eu l'impression que du coup que ce rythme avait bougé, le fait de l'évoquer, et que effectivement je me suis moins pressé, je me suis quand même j'ai changé mon propre rythme, mais pour respecter aussi ma famille, moi cette famille qui m'ouvre les bras et je suis arrivé dernier, mais légèrement, du moins, tout était wow. Et ce manger juste, ces trois bols, la bonne quantité, voilà, c'est cette famille qui chaque famille qui accueille un nouveau-né, et ben ce nouveau-né va faire changer la famille et de se rendre compte que cette famille est vivante et soutient le vivant. Je suis à ma place. Voilà. Et je vous remercie de cette position.
Et cette famille, cette sangha, elle est vaste. Très vaste. Et comme on le chante, elle. Tous les êtres vivants. Ils en font partie. Pour dire à quel point c'est vaste.
Moi, je peux partager quelque chose. Moi, je suis allée voir Lisa tout à l'heure. Et puis donc c'est là où elle m'a dit ah je vais parler, bon c'est là où j'ai dit cool, et après je lui ai dit bon mais tu vas faire quoi, je vais nettoyer les toilettes, voilà, elle est partie nettoyer les toilettes, donc je peux vous assurer que sa préparation pour son talk c'était d'aller nettoyer les toilettes, et j'ai trouvé ça très rassurant en fait.
Ouais. Bah oui, c'est important les toilettes. Ouais.